L'aveugle né. Il ne faut pas douter d'abord de l'historicité de l'épisode. Les évangélistes racontent ce qui s'est passé. Mais tous les miracles de Jésus, du Christ, tous les miracles ont une signification ou des significations en filigrane cachées. Et comme je vous l'ai déjà fait remarquer depuis 3 semaines, les 3 évangiles que nous avons lus ces derniers dimanches, aujourd'hui, dimanche dernier et celui d'avant, c'est toujours des évangiles sur l'eau, où l'eau est dans l'eau. Et c'est en relation avec la fête de Pâques qui était notre introduction à la résurrection par le baptême. Donc c'est toujours une réflexion encore, un approfondissement de ce que nous apporte l'eau du baptême. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre que l'eau du baptême, c'est-à-dire aujourd'hui la piscine de Siloé, dans l'évangile d'aujourd'hui la piscine de Siloé, figure d'abord le Christ lui-même, puisque Siloé veut dire envoyé. Donc le Christ envoie, le Christ qui est l'envoyé du Père, envoie l'aveugle né pour voir à partir de l'eau de la piscine de Siloé, c'est-à-dire à travers le baptême. Mais à travers le baptême, c'est lui, le Christ, qui se donne et qui donne la vie. La vue, pardon. La vue aussi. Cet évangile-là insiste beaucoup sur le phénomène de voir. Il ne voyait pas. Qui t'a fait voir? Qui t'a ouvert les yeux? Je n'ai pas le texte sous les yeux, je ne peux pas vous dire par cœur toutes les références, mais je crois qu'il y a au moins 10 fois dans ce relativement court évangile, il y a au moins 10 fois, je crois, la notion de voir. Et effectivement, le baptême nous permet de voir cet arrosage de la graine dont je parlais tout à l'heure, avec un vocabulaire un peu plus simple. Et cette manière de voir est un don de l'Esprit Saint que nous recevons par le baptême. Voir ne consiste pas à emmagasiner et analyser avec les yeux et analyser avec notre cerveau, comme les scientifiques nous le disent, ce qui, dans cet ordre de choses, est réel, bien sûr. Mais voir dans le vocabulaire évangélique, c'est apprendre à voir autrement. Vous et moi, quand on regarde une horloge, on voit un cadran et 2 ou 3 aiguilles qui tournent autour, qui tournent au centre du cadran, enfin qui montrent des chiffres. C'est une manière de voir. On voit une horloge. Quand un horloger regarde une horloge, il voit derrière tout un mécanisme autrement plus complexe, qui n'a pas pour but d'être vu, mais qui est la face réelle de l'horloge. Les aiguilles et le cadran ne sont qu'une illusion qui nous montre les heures, une illusion scientifique qui donne réellement des heures. Mais en soi, c'est rien. C'est tout le mécanisme qui est intéressant. Eh bien, l'horloger voit l'endroit des choses alors que nous en voyons l'envers, où il voit l'autre aspect. Et le baptême nous permet, par la réception de l'Esprit Saint, nous permet de voir autrement, de voir ce qui n'est pas donné à l'homme déchu de voir. Nous sommes tous l'aveugle à cause de notre héritage de notre héritage, d'une nature malade et aveuglée par le péché. Que nous fassions des péchés ou que nous ne les fassions pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous héritons de la même maladie. Si, ça a une certaine importance dans un certain ordre de choses, mais pour ce que je veux dire, il n'y a pas. Donc nous sommes tous aveugles, nous ne voyons pas. Vous voyez Dieu? Vous voyez bien cet enfant qui demande où est le ciel? Qu'est-ce que c'est que le ciel? Comment on monte au ciel? On peut tous poser la même question d'ailleurs. Mais à quel point nous sommes aveugles? C'est notre expérience. Nous vivons en permanence avec Dieu et nous ne savons même pas ce que c'est le ciel, ce que c'est que là où. C'est honteux. Je ne vous accuse pas. Je veux dire par là que nous sommes véritablement, profondément aveugles. C'est ça notre condition pécheresse. Mais pourtant, avec le baptême, la réception de l'Esprit Saint, qu'on alimente après avec la communion, il nous est donné petit à petit que les écailles que nous avions sur les yeux qui nous empêchaient de voir, petit à petit tombent. Et d'abord, sous forme de lueur, petit à petit, on s'approche davantage de la lumière et on commence à voir clair. Et cette vision, cette clairvoyance, ne doit pas être attribuée à nos facultés ou à nos efforts, appelons les efforts de conversion, si vous voulez, ou effort ascétique, mais c'était uniquement la grâce de Dieu qui nous le procure. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, j'espère y participer un peu aussi, c'est ce que nous faisons lorsque nous venons à la liturgie. À la liturgie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des rites, des mouvements, vous sentez des odeurs, de l'encens, tout le monde n'apprécie pas, enfin c'est quand même des odeurs. Vous entendez des chants, vos sens sont captivés. Si vous les analysez scientifiquement, ça ne vaut pas grand-chose. Ah, ça peut même être des images, ça peut être des symboles. Certains considèrent même que ça peut être de la magie. Mais si vous avez la foi, ce qui est votre cas, si vous avez la foi, à travers ces choses, à travers ces symboles, vous percevez une autre réalité. Vous percevez le mécanisme de l'horloge. Et vous entrez dans les mouvements même de l'horloge. Vous êtes avec le balancier, vous êtes avec les roulettes qui sont les rouages qui sont dedans. Vous y participez, vous êtes entraîné dans le même mouvement. Chacun à son rythme. Chacun suivant sa personnalité, mais tout de même, tout le monde participe. Il y a une communion en cela. Et vous percevez même celui qui est à l'origine du mouvement, c'est-à-dire Dieu. Vous recevez ce mouvement et vous percevez ce mouvement. Tant que nous sommes encore dans ce corps, on l'aperçoit d'une manière un peu opaque, d'une manière justement à travers les symboles. Mais la foi qu'il nous a donnée, car la foi, voir, c'est avoir la foi, c'est déjà une participation à l'expérience que nous aurons lorsque nous serons en totalité, en plénitude, dans le royaume des cieux et dans le ciel, donc après notre mort. Mais n'attendons pas cette réalité-là. N'attendons pas avec patience d'être enfin mort pour pouvoir le connaître. C'est maintenant que chacun d'entre nous pouvons connaître cette réalité-là. Voir, c'est voir autrement. Comme je disais à notre enfant tout à l'heure, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse nous faire accéder à la puissance qui meut l'horloge. Puisque c'est lui, cette puissance-là. Mais nous, comment nous préparer? Comment faire pour voir l'invisible? Comment peut-on apprendre à voir autrement? On a ces yeux-là, on a cette intelligence-là, comment voulez-vous faire autrement? En développant le germe de vie éternelle qui nous a été donné par le baptême. Et les éléments fondamentaux nécessaires à cette vision autre, à cette vision profonde, à l'endroit réel de la vie, le bon côté de la vie, c'est en développant le contraire de l'orgueil, en développant le contraire de l'enfermement sur soi, c'est-à-dire par l'humilité. C'est l'humilité qui peut qui nous dispose à recevoir la grâce qui alimente, qui fait croître la vie divine, ce sens de la vie divine qui est en nous. Cette vie divine, elle nous est tellement intime que la grâce du baptême amène chez nous une espèce de connaturalité, une espèce d'expérience humble, réelle, mais réelle, de ce qu'est la vie divine, de l'action de la vie divine. Mais ceci ne peut se réaliser, ne peut s'accomplir, ne peut croître, ne peut mûrir qu'à condition d'oublier volontairement, donc de crucifier, donc de sacrifier, si vous voulez, toute notre manière égocentriste, plutôt, de voir les choses. Et ceci, c'est par l'humilité, donc par l'obéissance. C'est en apprenant à renoncer dans toute notre vie, de renoncer à ce à quoi on veut s'attacher, à nos idées, même si elles sont bonnes, à nos projets, à nos décisions, à nos choix, à notre moi en quelque sorte, mais pas comme une discipline, comme une authentique crucifixion, comme une oblation, comme un don, un holocauste que l'on offre à Dieu, s'offrir à Dieu, c'est-à-dire accepter tout ce qui nous arrive, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, à l'accepter avec patience, avec abnégation, avec reconnaissance aussi, sachant que tout cela, c'est Dieu qui le donne, c'est le monde, c'est l'univers, les univers qu'il met à notre disposition pour nous permettre de croître dans cette accession à la vie, à la vie éternelle. Voir autrement, c'est une autre logique. C'est la logique dans laquelle on parle au moment, pendant la liturgie. Nous t'offrons ce culte logique. Oh là 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 là, tu parles d'une logique. Je prends du pain, j'en fais le corps du Christ, c'est logique ça, n'est-ce pas? Et bien d'autres choses comme ça. Parce que là aussi, notre vocabulaire est faussé. Là aussi, on voit d'une manière opaque. Pour nous, qu'est-ce que c'est que la logique? On confond la logique avec le rationnel. Le rationnel, c'est-à-dire les faits de notre raison, notre philosophie, notre vue à court terme. Quel mot je suis en train de dire là? Logique. Alors que la logique, c'est l'expérience du Logos. Le Logos qui est la deuxième personne divine, celle qui s'est incarnée et qui est devenue loin du Seigneur, qui est le Christ. C'est-à-dire que le culte que l'on offre, c'est le culte logique, le culte du Logos, pas simplement du Christ incarné, mais de toute la vie, de toute l'existence du Christ. Et vous voyez qu'il y a les mots eux-mêmes portent une signification autre. Il y a une autre manière de voir autrement. Et toute notre vie chrétienne consiste à apprendre à voir autrement. Et si nous sommes, et le si est une affirmation, comme nous sommes aveugles de naissance, nous n'avons qu'un espoir de voir autrement, c'est que le Christ lui-même fasse de la boue avec sa salive, qu'il enduise nos yeux et que nous l'avions. Comment ? Le Christ est l'envoyé, avons-nous dit tout à l'heure, véritable. Et le Christ, le Logos, avait créé le monde à son origine, et il continue d'ailleurs. Et pour créer le monde, ayant créé le monde, il a créé l'homme en prenant du limon de la terre, en prenant de la terre, et en façonnant l'homme à partir de la terre, c'est-à-dire à partir du monde déjà matériel. En enduisant, en crachant sur le sol et en faisant de la boue dont il enduit les yeux de l'aveugle né, le Christ, le Logos, se présente comme étant le Logos, se présente comme étant le Créateur. Il reprend de la boue et il reforme, il rénove la création, il fait une récréation avec la boue. Et pour l'aveugle, de manière à ce que l'aveugle retrouve une nouvelle vie et qu'il revoie. Et ceci se réalise à travers sa plongée, ou le fait de laver ses yeux à la piscine de Siloé, piscine qui se dit Siloé, donc envoyé, et c'est en participant à la vie du Logos, en participant à la vie du Christ par le baptême, que cette revision lui est accordée. Nous avons déjà été baptisés, on ne renouvelle pas le baptême. Enfin, on ne renouvelle pas le rite du baptême, mais on renouvelle ce baptême par à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous nous convertissons, à chaque fois que nous nous repentons, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, à chaque fois que nous nous efforçons de réaliser que Dieu est présent, qu'il est là, qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Ça, c'est la nouvelle vision, c'est le retour à la vision que nous avions dans le paradis lorsque nous marchions avec Dieu, lorsque nous conversions avec Dieu, et par la venue de l'envoyé auquel nous participons, je répète, par le baptême et ses conséquences, il nous est donné aujourd'hui de remarcher, de revoir, de reconverser, de reconverser avec le Logos. C'est ça notre vie spirituelle.